France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et en particulier aujourd'hui sur les réquisitions très sévères dans le procès du financement libyen de la campagne présidentielle victorieuse de 2007 de Nicolas Sarkozy. Et puis pour le débat, nous recevrons un invité exceptionnel, chercheur américain en sciences politiques à l'université Johns Hopkins. Sa théorie sur la fin de l'histoire et le triomphe programmé de la démocratie libérale a influencé les débats intellectuels dans le monde entier depuis plus de 30 ans. Comment analyse-t-il le reflux démocratique un peu partout et en particulier dans son pays? S'est-il trompé? Francis Fukuyama sera avec nous pour le débat, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Negarov sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Allez, on commence le duel avec l'événement politique de la semaine. Les réquisitions du parquet dans le procès sur le financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Le parquet a demandé au tribunal de le reconnaître coupable de corruption, recel de détournement de fonds publics, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne électorale, 7 ans de prison requis, 300 000 euros, une peine d'inéligibilité. Christophe Ingrin, l'un de ses avocats, juste après l'annonce.
On a entendu des peines complètement hors sol, sans aucun rapport avec les 3 mois d'audience, comme si on n'avait pas eu 3 mois d'audience, comme si le parquet n'avait pas reculé à de nombreuses reprises sur différents points. Et en dépit de tout ça, pour masquer ses faiblesses, pour dissimuler ses carences probatoires, le parquet parle fort et demande des peines élevées. C'est pas ça la justice. Même si elles sont dites avec un ton sentencieux qui se veut sévère, elles sont vides, elles sonnent creux.
Elles sonnent vides, elles sonnent creux. La défense aura la parole le 8 avril prochain, mais Gilles, je me tourne vers vous. On a besoin de pédagogie et aussi de politique pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Et une première question peut-être toute simple, est-ce que c'est historique ce procès?
Je pense. Pendant longtemps, je dois avouer que j'ai regardé cette affaire libyenne de loin. Mais je crois vraiment que ça mérite qu'on s'y plonge. J'ai lu attentivement les comptes rendus de chaque journée du procès. À ce stade, on doit évidemment être d'une extrême prudence parce qu'on est après les réquisitions, mais on est avant les plaidoiries de la défense,
absolument,
avant le jugement de première instance et évidemment avant le jugement définitif. Mais je pense que ça n'impose pas le silence et qu'il y a quand même des choses à dire à la fois sur ces journées d'audience et puis sur les réquisitions du procureur qui, par elles-mêmes, constituent un événement. Sur le procès, je dirais peut-être deux choses. La première, c'est que les débats ont été confondants et à certains moments même embarrassants pour les prévenus. On avait à la fois la circulation d'un argent magique. Je pensais à la chanson de Bernard Lavilliers, Les aventures extraordinaires d'un billet de banque. Je me suis démultiplié chez un type assez bizarre qui travaillait tard le soir à la plume et au pochoir. Voilà l'argent là, comme ça, qu'on achète quelque chose, 10, ça, on le revend 100.
Et, ouais.
Bon. La présence de personnages interlopes, l'existence de déplacements de ministres incompréhensibles, notamment en Libye, l'utilisation par l'État de procédures étranges pour exfiltrer des dignitaires libyens. À tout le moins, il y a une faillite morale, et à tout le moins, l'entourage de Nicolas Sarkozy a eu des comportements indignes. Et puis, deuxième remarque, non pas sur les débats dont je disais qu'ils étaient confondants, mais sur les effets du procès sur l'esprit public, dont je pense qu'il risque d'être consternant, dans un pays où vous avez les deux tiers des Français qui pensent que la plupart des hommes politiques sont corrompus, dans un pays qui vient de reculer à son pire classement dans le baromètre de Transparency International sur la corruption, les effets ne peuvent être que délétères, et c'est d'autant plus rageant que depuis 2014, notamment, la France s'est dotée de dispositifs anticorruption plutôt parmi les plus performants et que les élus sont le plus souvent tout à fait honnêtes.
Et vous dites cela deux jours avant le jugement pour Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires, voilà qui va ajouter encore à ce sentiment. Natacha.
Pour poursuivre ce que disait Gilles, en effet, il est très intéressant d'aller lire tous les comptes rendus d'audience et en particulier le témoignage du commandant Vidal qui a instruit l'enquête et... de se rappeler, donc, à la faveur de ces lectures, la manière dont cette enquête a surgi, c'est-à-dire, en fait, comme une sorte de conséquence de l'enquête sur l'attentat de Karachi et l'affaire des rétrocommissions dans la campagne d'Édouard Balladur. C'est-à-dire qu'on voit des affaires s'imbriquer en cascade, ce qui, en effet, est assez vertigineux. Une fois qu'on a dit cela... La question qui va se poser est très complexe, c'est celle de savoir quelle est la responsabilité des juges face à cette audience telle qu'elle s'est passée, face à ces trois mois de procès. Parce que ils vont juger, on sait que le doute doit bénéficier à l'accusé, mais le principe là est que s'il n'y a aucune preuve formelle qui accuse Nicolas Sarkozy, il y en a pour son entourage en effet, et Gilles avait tout à fait raison de souligner que le nombre de personnages interlopes dans cet entourage est tout de même assez confondant. Mais la question est de savoir si les juges vont, à partir des faisceaux d'indices extrêmement importants qui sont apparus au cours de l'enquête, décider que ces faisceaux d'indices impliquent, non pas un doute, mais une certitude, auquel cas... En effet, même sans preuve, ils peuvent décider que ce faisceau d'indices induit qu'ils vont juger que Nicolas Sarkozy est coupable. Et tout le problème, tout le caractère spectaculaire de cette affaire est qu'il n'y a pas de milieu. C'est-à-dire que soit Nicolas Sarkozy est innocent et on assiste à un acharnement absolument terrifiant et à une affaire incroyable.
Ça, c'est la défense.
Mais en effet, s'il est innocent, il l'est totalement. Soit il est coupable. Et il est coupable de quelque chose de gravissime. De gravissime parce que ça a impliqué la politique étrangère de la France, parce que il y a derrière, en effet, les actions de son entourage à tout le moins pour essayer de réhabiliter un personnage comme Senoussi qui est responsable de l'attentat du DC-10 du TA. Et donc tout ça est énorme. À ceci près, que nous sommes bien d'accord que ce ne sont pas des juges qui doivent décider quelle doit être la politique étrangère de la France et considérer qu'on doit recevoir un dictateur même épouvantable, même un des pires de la planète, ça ne regarde pas la justice, mais en effet, les élus de la République. Sauf que là, ce qui va être terrible, c'est que justement, la justice a un droit de regard puisqu'on peut soupçonner que ça n'a pas été fait pour des raisons politiques, qu'on peut débattre, dont on peut débattre, mais qui sont parfaitement justifiables, mais pour des raisons tout à fait inavouables. Le problème de ce jugement, c'est que, quoi qu'il arrive, il aura des conséquences délétères sur la vie démocratique du pays, parce que si Nicolas Sarkozy est reconnu innocent, en effet, ce sera pour la justice un désaveu terrible, mais s'il est reconnu coupable, il y aura de toute façon des gens pour juger que la justice est politique. Et en effet, cela jettera de toute façon un trouble terrible sur l'ensemble de la vie politique. Donc de toute façon, la République en sort affaiblie. Et ça doit nous inciter à penser que le caractère totalement irréprochable des politiques doit encore être renforcé.
Gilles, un mot là-dessus. Franchement, c'est hyper intéressant ce que dit Natacha à la fin. L'idée que, quelle que soit l'issue de ce procès, c'est la République qui sortira affaiblie.
Oui, évidemment. C'est quand même pas exactement la même chose si un ancien président de la République est condamné à une longue peine de prison. Mais de toute manière, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'esprit public. Je rebondis sur ce que disait Natacha. Quand on reprend les propos du réquisitoire, de ces 20 heures de réquisitoire par rapport à ce que disait Natacha, il dit il y a un faisceau de multiples indices et dont il évoque la gravité, la précision et la concordance. Deuxième point sur, Natacha dit c'est gravissime, c'est gravissime parce que ça peut vicier les résultats d'une élection présidentielle, et d'autre part parce que ça porte atteinte à la souveraineté de la France, c'est ce que disait Natacha. Et enfin, et je termine par là, elle dit, et je pense que Natacha a raison de dire ça, il n'y a pas de juste milieu, au sens soit Nicolas Sarkozy et les autres prévenus sont coupables et les peines vont être lourdes, soit il n'y aura pas de peine du tout. C'est pour ça que le quantum, les 7 ans qui sont demandés, évidemment, sont très spectaculaires, mais compte tenu de la gravité des faits, effectivement, il n'y a pas de juste milieu. J'étais frappé, je termine par là, par le compte-rendu qui a été fait, et c'est intéressant que ce soit dans ce journal-là, par le Figaro, par le chroniqueur Stéphane Durand-Soufflant, qui est le chroniqueur judiciaire du Figaro, qui conclut son papier dans le Figaro. L'argumentation du parquet a été dévastatrice, s'appuyant notamment sur des témoins libyens, sur les carnets d'un ex-cacique, sur d'innombrables notes exhumées du disque dur de Ziad Takieddine, dopées aussi, il faut le dire, et c'est ce que j'évoquais, par la médiocre crédibilité d'une grande partie des déclarations des prévenus, les trois procureurs ont bâti une accusation redoutable.
Le grand face-à-face, le duel.
Allez, on prend la direction de la Turquie et notamment Istanbul où 10 jours après l'arrestation du maire, les mouvements de contestation continuent dans le pays en dépit des interpellations massives du pouvoir. La jeunesse est mobilisée.
C'est pas seulement Imamoğlu. Imamoğlu est le déclencheur. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la prison pour absolument rien. Il n'y a pas de justice en Turquie.
On n'en peut plus, on ne supporte plus cette situation. Ça va très mal, on n'a plus de liberté, on ne peut pas boire de bière, on ne peut rien faire, on ne peut pas aller à des concerts. On veut notre jeunesse qu'ils nous ont volée il y a 20 ans. On sait ce que l'on veut, tous les gens ici le savent. Vous pouvez l'entendre, cela ne va pas s'arrêter, cela ne doit pas s'arrêter.
Cela ne va pas s'arrêter, cela ne doit pas s'arrêter, Natacha. Les manifestations anti-Erdogan, elles ne sont pas inédites, notamment pour la jeunesse en Turquie. Est-ce que celles-ci sont de nature différente et peut-être plus dangereuses pour le pouvoir en place?
Alors en fait, elles sont de nature différente pour plusieurs raisons. Ces manifestations interviennent dans 55 des 81 provinces du pays. En effet, c'est l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu qui en est le déclencheur. Mais il y a une conjonction de problématiques économiques et politiques qui expliquent l'ampleur de ces manifestations. L'inflation est à minima de 44% en Turquie, c'est-à-dire qu'elle est sans doute en fait plus élevée que cela. Et le chômage des jeunes augmente, atteint 15%. Donc il y a un véritable mécontentement d'ordre économique. Mais surtout, il y a le fait que ces jeunes gens qui manifestent n'ont jamais connu que Erdogan au pouvoir. Il est arrivé en 2002, souvenez-vous, à l'époque, il était de bon ton en Europe, et notamment dans les pays de l'ouest de l'Europe, d'expliquer que c'était un islamiste modéré. Je n'ai toujours pas compris le concept, mais c'était... Et le problème est que cette jeunesse a l'impression de voir ce pouvoir-là petit à petit se rigidifier. Et pourquoi je dis que c'est un tournant? Parce que justement, des signaux avaient été envoyés ces dernières années qui allaient plutôt dans le bon sens. Souvenez-vous des municipales de mars 2024 que nous avions commentées ici même. Erdogan avait lui-même déclaré que c'était un tournant pour l'AKP, son parti, parce que c'était une prise de conscience du fait que le parti d'İmamoğlu, le CHP, était en train de prendre de l'importance, de s'installer. Il tient les 5 principales villes du pays. Et donc, il y avait là une acceptation du processus démocratique. De même, d'ailleurs, que l'élection générale de mai 2023, Kemal Kılıçdaroğlu avait fait 47%. Oui. Quasiment 48%, ce qui est énorme. Et là aussi, ça envoyait le message d'un pays qui, malgré tout, était appuyé sur ses institutions, des institutions démocratiques qui pouvaient survivre, en effet, à la longévité politique d'Erdogan. C'est ça qui est en train d'être fragilisé aujourd'hui. Et Erdogan est peut-être en train de basculer, ce qui serait extrêmement dangereux, d'autant plus que ça intervient à un moment où il est en train d'essayer de s'imposer sur la scène internationale. Il le fait depuis longtemps, mais là, il utilise évidemment la faiblesse des Européens sur l'affaire ukrainienne. Il l'a déclaré le 24 février. Seule la Turquie, l'adhésion complète de la Turquie, peut sauver l'Union de l'impasse dans laquelle elle est tombée, de l'économie à la défense, de la politique à la réputation internationale. C'est-à-dire qu'il est en train de s'appuyer là-dessus. On voit que la Pologne veut continuer et veut faire entrer la Turquie dans l'Union européenne, c'est-à-dire que là, les divisions réapparaissent entre Européens. Bref, Erdogan, dans sa volonté impériale, est en train de faire basculer petit à petit son pays, mais aussi l'Union européenne.
Et la Turquie était présente à Paris pour le sommet en défense, pour la sécurité ukrainienne. Gilles, sur ces mouvements de flux et de reflux démocratiques en Turquie, quel est votre regard ?
Dans son histoire politique, la Turquie a déjà connu des coups d'État contre le pouvoir en place. C'est sans doute la première fois que c'est un coup d'État du pouvoir en place contre l'opposition. Il y a des attaques contre la démocratie dans de nombreux pays qui se font parfois avec un peu de subtilité, contre l'état de droit. Là, on est sur du brutal, on est sur du classique. C'est l'arrestation du leader de l'opposition, emprisonné aujourd'hui et empêché demain, puisque parallèlement à son arrestation, son diplôme universitaire obtenu il y a 20 ans a été annulé. Et c'est une condition pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Donc, on est sur du brutal. Avec, je crois, deux leçons sur la démocratie. Une sur le continuum, une sur le momentum. Le continuum, on entend souvent des distinctions entre les attaques contre la démocratie libérale et contre la démocratie tout court. On voit qu'en fait, il y a un continuum et qu'on commence par les attaques contre la démocratie libérale, on finit par les attaques contre la démocratie tout court. Et deuxième chose, sur le momentum, je pense que ça ne tombe pas par hasard. C'est dans ce moment trumpien dans lequel un certain nombre de responsables politiques, on voit au même moment les attaques de Benjamin Netanyahou contre l'état de droit en Israël, avec le limogeage, on en avait parlé, du directeur du Shin Bet, un certain nombre de personnes se disent « on peut y aller ». Bon, et donc on est à ce moment dans lequel un régime autocratique peut se transformer en régime dictatorial. Il y a, et c'est une des bonnes nouvelles, une résistance populaire qui est forte. Ce sont les manifestations qu'a évoquées Natacha. Ce sont aussi les 15 millions d'électeurs qui se sont déplacés pour voter à la primaire du CHP, le Parti Social-Démocrate, et pour désigner, malgré tout, Imamoglu comme leur candidat. C'est le boycott qui commence à s'organiser contre les entreprises proches du pouvoir. Donc, il y a une partie de résistance, mais le mouvement est fort.
Le reflux démocratique, voilà qui intéressera l'invité du débat tout à l'heure, Francis Fukuyama.
Natacha Très Pelloni. Rapidement, Gilles a raison de le souligner. En effet, la culture démocratique, elle est ancrée en Turquie, et c'est ça qui explique ce sursaut. À une exception près, et c'est bien le problème, c'est qu'en revanche, la diaspora turque en Europe vote très largement pour Erdogan et a sans doute permis qu'il passe à la dernière présidentielle. Et donc, il y a, c'est pour ça que je soulignais la fragilité de l'Europe, des pays européens, c'est qu'ils ne sont pas exactement dans la même position que la Turquie et la société civile turque qui, elle, est profondément, pour l'instant, profondément démocrate.
Mais quelle peut être l'issue d'un tel mouvement ? On entendait un jeune qui disait « ça ne peut pas s'arrêter ». Et quel rôle pouvons-nous jouer, nous ? Devons-nous jouer un rôle ?
Le rôle que nous devons jouer, je pense, c'est justement de ne pas être totalement naïf et soumis aux intérêts d'Erdogan sous prétexte que nous-mêmes sommes confrontés à l'impérialisme russe. C'est pour ça que je soulignais le fait qu'il me semble profondément dangereux que la Pologne en profite pour dire qu'il faut absolument faire rentrer la Turquie dans l'Union européenne. L'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, qui à l'époque était largement poussée par les États-Unis, consistait à fragiliser l'Union européenne en tant que possible entité politique et protection. Donc il s'agissait d'affaiblir. Donc qu'aujourd'hui ce soit une espèce de bouée de sauvetage pour tous ceux qui ont l'impression que l'unique ennemi c'est Vladimir Poutine me semble dangereux, parce que c'est oublier qu'en effet des impérialismes il y en a ailleurs.
Gilles ?
Il y a une forme d'embarras européen, la France et les pays européens ont condamné, mais on sent qu'ils se retiennent malgré tout. Et je ne pense pas du tout que la question soit celle de la procédure d'adhésion, parce qu'en fait tout le monde sait bien que c'est une procédure d'adhésion qui est gelée et qui est fictive. En revanche, il y a des sujets sur lesquels nous avons des intérêts convergents. Objectif avec la Turquie. Sur l'Ukraine, vous l'aviez dit, Thomas, le vice-ministre était à Paris cette semaine, et en dépit d'une position qui est parfois ambiguë vis-à-vis de la Russie, la Turquie est un allié. L'industrie d'armement de la Turquie peut être à un moment nécessaire pour les pays européens. Donc, on est dans ce monde qui est beaucoup plus compliqué et beaucoup moins lisible qu'il ne l'était il y a 10 ans ou il y a 20 ans.
Oui, mais la question est de savoir si l'Union européenne gagne à maintenir une fiction. Puisqu'en effet, je pense que c'est une fiction, ce récit de l'adhésion de la Turquie. Que la Turquie soit une immense, que la Turquie soit une immense civilisation avec laquelle il faut entretenir des relations, c'est indéniable. Je ne vois pas pourquoi ça devrait impliquer ce genre de choses qui brouillent le discours même de l'Union européenne sur elle-même.
Je suis d'accord. Je termine par la phrase d'un journaliste turc qui m'a frappé. Il a dit « On s'est endormi en Turquie, on s'est réveillé en Russie ». Je trouve ça assez bien vu.
Le grand face-à-face, le duel.
Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ?
Il est où le bonheur ? Il est où ? Gilles, fan et spécialiste de Christophe Maé. Il est où le bonheur, Gilles ? Si je vous pose la question, c'est parce que cette semaine a été publié, enfin il y a quelques jours, le rapport annuel sur le bonheur sous l'égide de l'ONU. Qu'est-ce qu'il dit et quelle est la réponse à la question que nous pose Christophe Maé depuis quelques années ?
Donc c'est un rapport annuel, c'est le rapport 2025. C'est un rapport qui est fait près de 150 pays à partir d'un certain nombre de critères. Il y a un premier niveau d'analyse qui est le niveau le plus à plat, c'est pour répondre à votre question. Il est où le bonheur ? Nous, Européens, ne sommes pas les plus malheureux. Les 5 premiers pays sont 5 pays européens. Sur les 20 premiers pays, il y a 14 pays européens. Deuxième réponse à plat, nous, Français, ne sommes pas parmi les plus heureux de ceux qui sont les plus heureux. On est 33e, c'est le plus mauvais classement depuis que ce baromètre existe.
Juste, c'est déclaratif, on est d'accord. On demande aux gens, êtes-vous heureux ?
Non, c'est un peu plus sophistiqué que ça.
Non mais il faut savoir, c'est quoi le critère
parce Bien sûr, il y a toute une série de critères qui tiennent compte à la fois de critères objectifs, les niveaux de revenus, l'espérance de vie,
les inégalités,
le niveau de liberté, les inégalités, et de critères subjectifs, est-ce que vous êtes satisfait de la vie que vous menez ? Est-ce que vous avez éprouvé dans les derniers temps des sentiments positifs, des sentiments négatifs ? Est-ce que vous avez confiance dans les différentes, dans les institutions, dans les individus ? Donc il y a une batterie de critères à partir desquels est bâti ce classement. Donc nous, Français,
33e,
on est entre l'Arabie Saoudite et Singapour. Il n'y a que 8 pays de l'Union Européenne qui sont moins bien classés que nous. Donc ça, c'est le premier niveau d'analyse, disons, à plat. On peut avoir un deuxième niveau d'analyse qui est de regarder les causes, notamment les causes pour la France. Pourquoi sommes-nous 33e ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce ne sont pas les facteurs objectifs. Le niveau de revenu, on est à peu près dans la moyenne. L'espérance de vie en bonne santé, on est parmi les plus hauts. Les inégalités, c'est pas si mal. C'est sur les facteurs subjectifs que l'on est moins bien. On éprouve beaucoup plus qu'ailleurs des émotions négatives. Et beaucoup plus qu'ailleurs, d'un point de vue collectif, on voit que les relations sociales, les relations aux autres, la bienveillance est beaucoup plus dégradée. Je termine par un point qui me paraît le plus important. Dans le chapitre 7, vous avez, sur la confiance, vous avez un papier de Yann Algan et de Claudia Sénic, qui sont les chercheurs, des directeurs du CEPREMAP, dans lesquels ils montrent deux choses. Le premier, c'est que ces attitudes subjectives comme la satisfaction dans la vie ou la confiance jouent un rôle beaucoup plus important dans les comportements électoraux que l'idéologie ou les positions sociales. Et deuxièmement, plus important encore, parmi ceux qui sont insatisfaits dans la vie, les personnes dont la confiance interpersonnelle est basse votent plus souvent à l'extrême droite, et celles dont la confiance est haute, plus souvent à l'extrême gauche. Ça confirme les travaux qui étaient les travaux de Daniel Cohen après l'élection présidentielle de 2017, qui s'appelait « Les origines du populisme ». Et on voit que c'est pas seulement un folklore, que derrière, il y a de la politique.
Natacha, hyper intéressant.
Oui, il y a différentes choses extrêmement intéressantes dans ce rapport. D'abord, en effet, la question de la subjectivité, c'est-à-dire la perception que l'on a de la bienveillance des autres. Et on voit que les pays qui arrivent en tête, qui sont les pays d'Europe du Nord, et les pays scandinaves, sont ceux où, en fait, il y a la plus grande confiance dans l'idée que, eh bien, si vous perdez votre portefeuille, on vous le rapportera. Et en fait, ça nous raconte ce qu'est une communauté. Et en particulier, dans le cadre de la France, une communauté politique. Parce que ce dont nous souffrons, me semble-t-il, le plus aujourd'hui, c'est la fracturation de cette communauté politique, c'est-à-dire l'idée que nous partageons le territoire géographique, les hasards de notre vie, avec des gens avec lesquels nous n'avons plus de destin commun. Et ça, c'est profondément dangereux pour une société. Deuxième enseignement très intéressant de ce rapport, il pointe la loupe sur un élément essentiel, l'impact de la taille du foyer familial. C'est-à-dire qu'il y a plus de bonheur dans les pays, en particulier dans les pays européens, quand le foyer est à 4 ou 5 personnes. Au-dessus, en général, ça implique une forme de pauvreté, et en dessous, ça implique de la solitude. Et ça doit être corrélé avec la baisse du taux de fécondité dans les pays développés, parce qu'en fait, nous entrons dans un cercle vicieux où la souffrance, la solitude provoque l'idée d'une perte de confiance en l'avenir qui provoque une baisse de la natalité. Dernier point.
On peut être très heureux sans enfant ou avec un seul enfant.
Parfaitement. Tout ça est statistique. Mais ce qui est montré, c'est qu'il y a plus de souffrance quand il y a une solitude qui augmente. Et dernier point sur la question des morts par désespoir, puisque ça aussi, c'est un des éléments de l'étude, c'est-à-dire les suicides, l'alcoolisme, la drogue, qui baissent partout dans le monde, sauf aux États-Unis et en Corée du Sud. Là aussi, c'est très intéressant d'essayer de se pencher entre la Corée du Sud avec un taux de fécondité extrêmement faible et une société en souffrance, et les États-Unis avec la crise des opiacés.
Mais pour terminer d'une phrase, je suis tombé par hasard ce week-end en lisant les cahiers de Lerne sur Romain Gary, sur une phrase dans laquelle il dit « Nous sommes tellement infectés d'indépendance que nous ne sommes pas devenus indépendants, nous sommes devenus infects ». Et c'est un peu le risque devant lequel nous sommes, et ça nous rend malheureux.
Sachez quand même que dans les écoles allemandes, depuis le Covid, dans certaines écoles, il y a des cours pour être heureux, des cours de bonheur. Est-ce qu'on peut apprendre à être heureux? Ça, j'en sais rien. En tout cas, je retiens dans ce que vous avez dit qu'au sommet du classement, c'est des pays démocratiques, comme si la démocratie rendait heureux, et pourtant, elle recule partout dans le monde. Les peuples préféreraient-ils le malheur au bonheur, la démocratie et son État, c'est le sujet de prédilection et d'étude de notre invité. Place au débat du Grand Face-à-Face.
France Inter, le Grand Face-à-Face, le débat.
Bonjour Francis Fukuyama.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Invitation à distance, parce que vous êtes chez vous en Californie. Vous êtes l'un des intellectuels les plus influents du monde. Vous êtes mondialement connu et commenté depuis votre essai, publié à l'été 1989 dans la revue The National Interest, un essai intitulé « La fin de l'histoire, point d'interrogation », devenu un livre en 1992, sans point d'interrogation, la fin de l'histoire. Vous y postuliez qu'après la chute du communisme, aucune alternative crédible et légitime à la démocratie libérale ne pourrait s'y opposer à terme. 30 ans plus tard, la démocratie bat de l'aile partout, des poussées illibérales et autoritaires se font jour, y compris chez vous, aux États-Unis. Il est donc plus que nécessaire de faire le point avec vous. Comment expliquez-vous ce recul démocratique? Vous êtes-vous trompé? On va vous poser ces questions, mais d'abord, j'aimerais avoir votre opinion sur la proposition qu'a faite Raphaël Glucksmann. Alors, je le situe pour vous, si vous ne le connaissez pas, c'est un homme politique de gauche, il est eurodéputé.
Rendez-nous la statue de la liberté. Nous allons dire aux Américains
qui ont choisi de basculer du côté des tyrans, aux Américains qui virent les chercheurs pour avoir fait preuve de liberté scientifique. D'abord, rendez-nous la statue de la liberté.
On vous en a fait cadeau. On vous en a fait cadeau. Mais apparemment, vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici, chez nous.
Le retour de la statue de la liberté, qui a été donnée à l'Amérique par la France, parce qu'elle ne le mérite plus, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est injuste?
Je comprends parfaitement pourquoi on peut dire une chose pareille. Et j'ai une certaine sympathie avec cette idée parce que les États-Unis, effectivement, ont opéré un basculement dans leurs valeurs fondamentales avec cette présidence Trump. Pour moi, c'est quelque chose d'incompréhensible. Mais tout de même, moi je dirais qu'il faut attendre un petit peu avant de rendre la statue, parce que le président Trump a été élu avec moins de 5% des votes populaires. Il y a encore de très nombreux Américains qui sont opposés à lui, à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il défend. Donc je dirais que la société américaine n'a pas tourné le dos à l'égalité, à la liberté. Et ce que j'espère, c'est que notre système va être capable de se corriger avec le temps. Donc je pense qu'on devrait quand même regarder la statue, en tout cas pour l'instant.
Ça veut dire que la démocratie n'est pas morte en Amérique ?
Je pense que ce qui se passe, ce n'est pas qu'on conteste la démocratie en tant que telle, c'est plutôt la primauté du droit, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des garanties constitutionnelles qui limitent les pouvoirs du gouvernement. Ce sont ces valeurs-là qui sont attaquées. Elles ont déjà été précédemment par d'autres dirigeants autocrates, que ce soit en Inde, en Turquie, en Hongrie, ailleurs. Simplement, on rejoint cette mascarade de ceux qui l'ont fait. Mais pour autant, je pense que nos valeurs constitutionnelles sont solides, plus qu'ailleurs, sans doute. Et puis, l'histoire n'est pas terminée quand même.
Est-ce que Trump est fasciste ?
Je ne pense pas que le qualificatif de fasciste corresponde vraiment, en l'occurrence. Ça ne le décrit pas bien, parce que historiquement, ça renvoie au génocide, à un militarisme agressif. Et on n'a pas ça, en tout cas, pour l'instant. Alors, il est autoritaire, ça c'est certain. Il ne veut pas être limité par la loi, par la Constitution. Il voudrait diriger les États-Unis comme s'il était un roi qui peut donner des ordres et qui n'a pas à tenir compte des députés. Il ne doit pas écouter non plus les tribunaux. Ça, ce sont les caractéristiques d'un dirigeant autoritaire. Donc ça, il l'est. Pour le fascisme, attendons de voir.
Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ?
Ce qui m'inquiète le plus sont les dégâts qu'il a déjà faits et qui sont graves. Et c'est un préjudice pour la confiance. Vous voyez, dans les années 90, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Confiance, Trust » en anglais. Et je pense que cette confiance, elle est essentielle pour le fonctionnement de l'économie moderne et de la démocratie de manière générale. Et même d'ailleurs, s'il quittait ses fonctions demain, je pense que les dégâts sont là. Ils sont très importants. Je crois que les Américains ne se font plus confiance. Ils sont extrêmement polarisés et ils ne font plus confiance à leur propre gouvernement. Ils ont l'impression que le gouvernement œuvre contre leurs intérêts, que leur propre gouvernement est un ennemi, plus que peut-être la Russie ou la Chine ou d'autres régimes autocratiques qui sont les concurrents des États-Unis. C'est probablement les dégâts les plus importants à ce stade.
Est-ce que Trump en est le seul responsable ?
Je dirais que ce qui est très préoccupant, c'est que, Trump, c'est un démagogue de talent, et ce qui est préoccupant, c'est qu'il a beaucoup de gens pour le soutenir, et le mouvement qui le suit va probablement perdurer, même quand il, lui, se sera retiré de la scène. En permanence, je suis impressionnée de voir le nombre de gens qui disent les mêmes bêtises et absurdités que lui dit à longueur de journée. Je suis surpris de voir le nombre de gens qui veulent l'imiter, ils veulent être agressifs, violents, racistes. C'est un style, malheureusement, qui se répand.
dans la droite américaine et qui va perdurer, je crois, après la disparition de Trump.
Bernie Sanders, actuellement, parle beaucoup d'une oligarchie aux États-Unis. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, autour de Trump, il y a une oligarchie ?
Je pense qu'il y a effectivement une oligarchie. Et ce qui est préoccupant et dérangeant, c'est que les membres de cette oligarchie sont les rois de la tech, des gens comme Elon Musk, Jeff Bezos, des gens qui ont gagné des fortunes considérables en ayant ces entreprises dans la tech. Et ces gens-là étaient, j'allais dire, de l'autre bord, c'est-à-dire qu'ils étaient progressistes, mais ils se sont convaincus au fil du temps qu'en fait, dans leur propre intérêt, il fallait qu'ils basculent vers le trumpisme. Et ça crée, je crois, une situation vraiment dangereuse pour la démocratie américaine. J'ai écrit d'ailleurs, il y a quelque temps, sur ce sujet. C'est quelque chose qui a été mis en place, en fait, par Silvio Berlusconi. En Italie, c'était un homme riche, a acheté tout un empire dans les médias. Il a utilisé cet empire dans les médias ensuite pour atteindre les sphères du pouvoir. Lorsqu'il est devenu Premier ministre, il a utilisé ensuite le pouvoir politique pour protéger ses affaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez bien des oligarques dans l'ancienne Union soviétique et en Europe de l'Est. Et Elon Musk fait exactement ça actuellement. Il a acheté Twitter, pas pour gagner de l'argent, mais pour gagner une influence politique. Il a ensuite utilisé pour faire élire le président Trump, ce qui lui donne ensuite un poste au niveau politique qu'il va utiliser pour faire fonctionner son business.
Est-ce que l'élection de Trump raconte la faiblesse de la démocratie américaine ?
Je pense que oui. On peut dire que c'est un symptôme de la polarisation extrême qu'il y a aux États-Unis actuellement. C'est-à-dire que Trump n'a pas fait les choses à lui tout seul. S'il n'avait pas des gens pour le soutenir, il n'y serait pas parvenu avec le succès qu'il a pu connaître.
Pensiez-vous un jour, dans votre vie, voir l'Amérique dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui ?
Je dois reconnaître. Je pensais que les électeurs étaient plus sensés que ça aux États-Unis. Je ne pensais pas qu'ils allaient réélire un démagogue comme Trump, et pourtant ils l'ont fait. Donc oui, je suis très déçu par la démocratie américaine.
Votre travail sur la fin de l'histoire a été souvent caricaturé. Vous ne pensiez pas, en 1992, que la démocratie libérale, c'était le triomphe à court terme partout des démocraties. Mais est-ce que vous imaginiez que 30 ans plus tard, les démocraties libérales soient en si mauvais état qu'aujourd'hui ?
Je suis surpris, effectivement, que la situation se soit dégradée autant que ça aux États-Unis. Je n'avais pas anticipé cette situation. Mais dans le même temps, la démocratie a vécu des périodes très sombres. Je pense aux années 30, aux années 70 également. Et il y a eu des précédents, en fait. La démocratie, pourtant, a survécu à ces moments difficiles qui ont déjà existé. Et j'espère qu'elle va survivre cette fois-ci encore.
Francis Fukuyama, j'ai une question un peu particulière à vous poser. Si vous aviez une machine à remonter dans le temps et que vous pouviez revenir en 1992, mais avec tout ce que vous avez appris depuis et ce que vous avez vu du monde depuis cette date, est-ce que vous écririez le même livre sur la fin de l'histoire et le triomphe programmé de la démocratie libérale ?
La notion de fin de l'histoire, c'est pas moi qui l'ai définie, c'est Alexandre Kojève, qui était un Français, donc enfin franco-russe, un intellectuel très influent des années 30 et 40. Et c'est lui, en fait, qui disait que l'histoire avait pris fin au moment de la Révolution française avec la déclaration de l'égalité des droits de l'homme. En fait, stricto sensu, il a raison. C'est-à-dire que il n'y a pas eu d'idée supérieure à celle-ci qui est venue supplanter ces principes par la suite, en dépit des revers, des difficultés que la démocratie a pu connaître ces dernières années.
Mais en 1992, à la chute du communisme et du mur de Berlin, vous pensiez que les démocraties libérales allaient l'emporter parce que les valeurs et la légitimité de la démocratie étaient incontestables. Est-ce que aujourd'hui, c'est encore le cas quand on voit partout le recul des démocraties ?
Je pense que ce que je ne vois pas aujourd'hui, si vous voulez, c'est une alternative systématique à la démocratie libérale qui, dont on se dit qu'elle peut peut-être supplanter ce système-là. Certes, il y a la Chine, il y a l'Iran, la Corée du Nord sont des régimes qui ne sont pas démocratiques, mais pour autant, je ne vois pas une idée qui, à elle seule, pourrait se répandre, comme ça a été le cas, comme celles qui ont été défendues par le marxisme ou le léninisme. Pour autant, c'est vrai qu'il y a d'autres modèles qui sont là, qui sont puissants, et il y a un certain nombre de sociétés qui veulent les imiter actuellement.
Quel est votre regard, votre opinion, sur ce qu'on appelle, à partir de la Hongrie, et maintenant de plus en plus dans le monde entier, la démocratie illibérale? Est-ce que la démocratie peut être illibérale?
Absolument. Et c'est peut-être le plus grand défi. Viktor Orban a déclaré il y a bien des années qu'on pouvait tout à fait avoir des élections démocratiques sans avoir la primauté du droit. On n'a pas forcément de contraintes constitutionnelles qui s'opposent à l'exercice du pouvoir. C'est ce qu'on a vu en Hongrie, en Pologne, avec le parti Droit et Justice, en Inde, avec Modi, par exemple, et maintenant aux États-Unis avec Trump. Le premier objectif ou la première cible, ce n'est pas la démocratie en tant que telle, c'est la partie libérale de la démocratie, c'est-à-dire les contraintes constitutionnelles, la primauté du droit, et c'est ça qui est ciblé essentiellement par ces démocrates illibéraux.
Mais pourquoi la démocratie illibérale progresse-t-elle ?
Je pense, je dirais qu'il y a une espèce de désir de pouvoir, qui est quelque chose de naturel. Et les dirigeants autoritaires n'annoncent pas d'emblée « je vais être autoritaire ». Ils disent « moi je veux faire telle et telle chose, là il y a un tribunal, il y a les médias qui me gênent, qui m'empêchent de le faire, moi il faut que je m'en débarrasse de ces contraintes qui m'empêchent d'exercer mon pouvoir ». C'est cette dynamique probablement qui fonctionne dans bien des sociétés.
Mais y a-t-il un moyen de résister à cela ?
Alors, la raison pour laquelle, en fait, on a des garanties constitutionnelles et des lois, c'est pour limiter cette forme d'exercice du pouvoir. Dans certains pays, ces contre-feux sont plus ou moins forts, et je dirais qu'aux États-Unis actuellement, ce sont les tribunaux, probablement, qui sont là pour essayer de limiter Donald Trump dans son pouvoir. Mais il y a d'autres pays où les tribunaux ont été affaiblis, et parfois c'est la rue qui parle. Vous voyez, c'est ce qui se passe par exemple en Israël actuellement, où est contesté directement le pouvoir de la Cour suprême. En Israël, là, les citoyens n'ont pas d'autre choix, ils sont obligés de descendre dans la rue pour protester. Donc, pour vous dire que les contraintes vont varier considérablement d'un pays à l'autre.
Si on parle d'Israël et des États-Unis, aux États-Unis, il n'y a pas une grande tradition de sortir dans la rue pour défendre l'état de droit. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus fragile aux États-Unis aujourd'hui ?
Vous savez, les États-Unis, c'est juste que c'est un pays qui est différent. Israël, c'est un tout petit pays, une petite société. Les États-Unis, c'est très grand. Je peux tout à fait concevoir des grandes manifestations dans certaines circonstances particulières. Par exemple, imaginez si la Cour suprême dit à Trump qu'il ne peut pas supprimer le droit du sol, par exemple, par décret exécutif, et que la Cour donc lui dit « non, vous ne pouvez pas le faire », et qu'il dit « moi, j'y vais quand même », ça pourrait provoquer des manifestations massives. Donc, on verra. Évidemment, c'est plus difficile de le faire aux États-Unis que dans un petit pays comme Israël.
Les démocraties illibérales justifient leur pouvoir par le rejet des minorités, du pouvoir des minorités. Comment est-ce que vous intégrez-vous le débat sur le wokisme dans la question démocratique ?
Le problème avec le wokisme, c'est qu'en fait, il a attaqué un principe libéral fondamental. Et ce principe, c'est qu'en fait, tous les êtres humains ont la même dignité, précisément parce qu'ils sont des êtres humains. et qu'on ne doit pas opérer de distinction en fonction de la race, du genre, de l'orientation sexuelle. Or, ce qu'a fait le wokisme, à mon avis, c'est qu'il a attaqué ce principe en disant que les groupes marginalisés devraient avoir des privilèges particuliers. Et c'est, je pense, précisément cette tendance-là qui a entraîné cette très forte réaction à droite. Donc, de ce point de vue-là, j'imagine qu'on peut dire que la politique progressiste a fait cette erreur-là ces dernières années. Mais la vraie menace, la plus importante qui pèse sur les libertés, elle vient de la droite et c'est une menace qui est beaucoup plus grave.
On commence à entendre aux États-Unis notamment des universitaires comme vous qui considèrent que on est allé trop loin dans le progressisme. Ça veut dire quoi ?
Je pense que dans nombreux cercles d'élite, dans les universités, dans le milieu artistique aussi, ailleurs, il y avait, si vous voulez, une espèce de restriction dans la manière de parler. C'est-à-dire qu'on se disait, si on parle de telle ou telle manière, d'une minorité raciale ou des immigrants ou des femmes, on se disait, on va être réduit au silence, non pas par l'État, mais par l'opinion publique. Et qu'on peut être renvoyé, on pouvait aussi perdre son emploi en ayant dit des choses assez anodines, finalement. Ça a été un vrai problème qui a existé dans de nombreuses universités, certes, mais là aussi, ça a entraîné malheureusement une réaction exagérée de la part de la droite.
Parlons maintenant un peu de géopolitique. Dans les années 1990, vous vous êtes opposé très durement à Samuel Huntington et le choc des civilisations. Est-ce que vous pensez que vous avez toujours raison aujourd'hui quand vous voyez l'état du monde ?
Je pense que le monde ressemble beaucoup plus à son monde qu'au mien, malheureusement, actuellement, avec la montée de grandes puissances comme la Russie, la Chine. Mais tout de même, je pense que l'opposition à laquelle on assiste actuellement, ce n'est pas de l'ordre de la civilisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, des valeurs liées à notre civilisation qui seraient contestées. On ne s'oppose pas à ça, au monde occidental en tant que tel, la Chine, l'Iran, le Venezuela. En fait, ils fonctionnent selon des principes tous très différents. Donc c'est pas le monde qui avait été décrit exactement par Huntington que nous avons. Mais quand même, il faut bien que je reconnaisse malheureusement que le monde est beaucoup plus conflictuel et sa vision à lui est probablement plus proche de ce que l'on voit actuellement que la mienne.
Merci pour votre sincérité. Quelle est, selon vous, la plus grande menace pour la démocratie dans le monde aujourd'hui ? Est-ce que c'est Trump, Poutine, Xi, le peuple, l'économie ?
Malheureusement, c'est un petit peu tout ça. Je dirais que l'une des caractéristiques du monde contemporain, c'est que la politique intérieure rejoint la politique internationale. Donc, il y a une partie, si vous voulez, des gens qui suivent Trump aux États-Unis et qui préfèrent la Russie à l'Ukraine. C'est du jamais vu. Pendant la guerre froide, par exemple, certes, il y avait un petit groupe de gens à l'extrême gauche qui soutenaient le communisme. Mais pour le reste, globalement, les Américains n'étaient pas du côté de l'Union soviétique. Alors qu'aujourd'hui, on a ces pouvoirs autoritaires qui arrivent à vraiment pénétrer les régimes démocratiques où ils vont trouver des alliés. Donc c'est très différent. Et puis ce qui se passe aussi actuellement, c'est qu'il y a une partie économique à tout cela. Jamais un président des États-Unis n'a soutenu les droits de douane comme le fait Trump actuellement. Et ça, c'est une vraie menace pour l'économie mondiale. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu à une telle échelle depuis les années 30. Hein.
Est-ce que vous pensez toujours que la mondialisation, c'est le meilleur moyen d'avoir la paix dans le monde ?
Je pense que la mondialisation a eu des effets négatifs qui avaient été sous-estimé dans les années 80 et dans les années 90, particulièrement l'externalisation de l'activité et la perte d'emploi qui s'en est suivie dans nos pays. Ça, c'est quelque chose dont on n'était pas conscient. Tout le monde s'est enrichi, certes, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs l'économie, mais il y a eu des conséquences sociales très graves.
J'aimerais qu'on parle maintenant de l'actualité. En ce moment, en France, il y a une trentaine de pays qui cherchent à trouver une solution pour continuer à soutenir Zelensky et l'Ukraine, parce que les États-Unis et la Russie bien sûr, mais les États-Unis s'en éloignent. Est-ce que vous pensez que les Européens ont les moyens seuls de dire non à Trump et de soutenir Zelensky ?
Je suis convaincu que l'Europe a la capacité de soutenir l'Ukraine et de s'opposer à la Russie. Vous voyez, le produit intérieur brut de l'économie de l'Union européenne, il est beaucoup plus important que celui de la Russie. Donc la puissance économique est là. Le problème a toujours été un problème politique. Manque d'unité, que ce soit au sein de l'Union européenne ou de l'OTAN. Mais vu la situation actuelle, vu la menace extérieure qui pèse sur l'Europe, je crois que l'Europe vraiment maintenant aurait tout intérêt à renforcer sa défense et à créer des nouvelles structures indépendamment des États-Unis pour défendre pas simplement l'Ukraine, mais elle-même, l'Europe. Il est critique que les Européens le fassent.
Francis Fukuyama, est-ce que nous, Européens, on doit désormais, vous, Américains, vous considérer non plus comme des alliés, comme des amis, mais comme des rivaux ou comme des adversaires?
Je pense malheureusement que l'Europe ne peut pas espérer voir un jour les États-Unis revenir à la position qu'ils occupaient avant 2016. Je pense que ce monde-là a disparu et je pense que l'Europe va devoir compter beaucoup plus sur elle. J'espère que dans les années à venir, on aura un revirement politique aux États-Unis, de sorte que les États-Unis ne seront plus aussi hostiles à l'égard de l'Europe qu'actuellement. Mais je ne pense pas que cette dépendance, en fait, à l'égard de la puissance militaire des États-Unis qu'il y avait dans les décennies précédentes, va pouvoir revenir un jour.
Vous êtes un grand théoricien des relations internationales. Est-ce que l'Europe est aujourd'hui en train de se convertir enfin au réalisme?
Non. Je ne pense pas qu'elle soit en train de se convertir au réalisme. Le réalisme, c'est une doctrine du pouvoir qui est indépendante des valeurs. Or, moi, je pense que les valeurs sont critiques pour l'unité de l'Europe. L'Union européenne est fondée sur un certain nombre de principes. C'est ce qui fait tenir cette union ensemble. Et d'ailleurs, je pense que l'Europe actuellement est le bastion des valeurs démocratiques. C'est là que l'on défend le plus ces valeurs démocratiques maintenant que les États-Unis ont fait faux bond.
Ma dernière question est presque philosophique. Est-ce qu'un continent comme l'Europe, qui s'est pensé sur des valeurs de paix, peut, en conservant ces valeurs, devenir un continent de guerre ?
Je pense que la survie devient la considération majeure actuellement. Aucun continent qui croit en la paix peut ignorer tout simplement la réalité du pouvoir. Donc si c'est ce que vous entendez par l'Europe qui devient plus réaliste, oui, je pense que c'est ça, c'est possible et c'est nécessaire.
Êtes-vous toujours optimiste pour l'avenir ?
Tout dépend à quelle échéance. À court terme, je suis plutôt pessimiste et dans la durée, je pense qu'il y a quand même un progrès dans l'évolution historique qui devrait nous donner de l'espoir.
Merci, Francis Fukuyama.
Merci.
Merci beaucoup, Francis Fukuyama. C'était un privilège et un honneur que de vous recevoir dans le grand face-à-face sur France Inter. Votre dernier livre, traduit en français, « Libéralisme, vent contraire », est sorti en 2023 aux éditions Saint-Simon. Je remercie également, bien sûr, Hélène Joguet pour sa traduction. Merci Gilles Merci Natacha, merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatte à la préparation de l'émission, Marie Merrier à sa réalisation et aujourd'hui Philippe Duclos et Guillaume Ficheux étaient à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France.